Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui terminer, si possible, le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Marc. Donc nous sommes en train d'expliquer la partie sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 15, donc versets 21-28 sur le polycopier, donc qui contient les explications des pères de l'Église sur les chapitres 11 à 16 de saint Marc. Nous en sommes à la page 31, au haut de la page. Donc nous étions en train de parler des symboles de la passion, l'annonce de la passion qui était faite dans l'Ancien Testament. Donc nous avons déjà cité Abel, mis à mort par son frère. Donc Abel représente le nouvel Adam, si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ, mis à mort par les Juifs. Puis Isaac, qui porte le bois du sacrifice avec Abraham, son père. Abraham, dont le bras est arrêté par l'ange, qui ne peut donc pas sacrifier son fils. En fait, c'était simplement une épreuve que bon Dieu avait donnée à Abraham pour vérifier son degré d'obéissance et d'abandon à la volonté divine, qui représente encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ, qui accepte par obéissance de mourir sur la croix, parce que pour lui, le sacrifice sera complet, alors qu'il n'y a eu que l'intention du sacrifice entre Abraham et Isaac. Troisième exemple, donc en haut de la page 31, Joseph, avec la gerbe qu'il vit en songe et sa tunique teinte de sang. Pardon, c'est Saint, la Genèse, chapitre 37, encore des allusions très nettes à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont les fils de Jacob, donc au début de la vie du peuple hébreu, les fils de Jacob qui jalousent leur frère plus jeune, Joseph, parce que c'était le préféré de Jacob, et qui vont être arrivés à le vendre comme esclave en Égypte, et qui va devenir le vice-roi d'Égypte. Voilà son songe qu'il explique à ses frères, qui va évidemment provoquer leur jalousie. « Je croyais que nous étions alliés des gerbes dans le champ, et que ma gerbe se levait, que se tenait comme debout, et que les vôtres étaient autour, se prosternaient devant ma gerbe. » Bien, c'est évidemment un symbole déjà de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant le roi des rois, va obliger tout le monde à s'incliner, le reconnaître, malgré les apparences, comme supérieur et créateur et rédempteur. Ensuite, il y a un autre symbole, c'est la tunique teinte de sang. Donc, la mère de Joseph avait fait pour son fils une tunique spéciale. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle ses frères jalousaient Joseph, leur jeune frère. Après avoir vendu Joseph au marchand madianite, il le vendit à 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui le menèrent en Égypte, un peu comme Judas a vendu son maître également pour de l'argent aux Juifs, pour qu'il soit pris au jardin de Gethsémani. Et pour faire croire à son père Joseph, Jacob, pardon, que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage, ils prirent sa tunique, ce verset 31 du chapitre 37 de la Genèse. Il prit donc sa tunique et la trempèrent dans le sang d'un chevreau qu'ils avaient tué. Et envoyant des gens pour la porter à leur père et pour lui dire, nous l'avons trouvée, voyez si c'est la tunique de votre fils ou non. Et quand le père lui reconnut, il dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête farouche et cruelle l'a dévoré. Une bête a dévoré Joseph. Et ses vêtements déchirés, il se couvrit d'un cilice, pleurant son fils pendant longtemps. Eh bien, cette tunique représente la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi avait une tunique spéciale qui avait été tissée d'une seule pièce par la très sainte Vierge Marie. Et cette tunique, plongée dans le sang d'un chevreau, représente évidemment la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore d'autres exemples, je n'ai pas le temps de tous les expliquer, mais vous avez certains de ces exemples à la page 31 sur le polycopier. Moïse avec sa verge. Le bâton de Moïse représente la croix. Et donc, par le pouvoir de cette croix, notre Seigneur Jésus-Christ va changer le monde, comme Moïse, avec le pouvoir de son bâton, va arriver à changer, provoquer toute une série de miracles extraordinaires pour imposer au Pharaon le départ d'Égypte de tout le peuple hébreu. Le serpent d'airain, c'est encore un magnifique exemple qu'on trouve dans le livre des Nombres, chapitre 21. Donc les Juifs se révoltaient constamment contre l'autorité de Moïse et contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre Dieu en fait. Ils avaient aussi une tendance très nette à l'idolâtrie, à adorer les faux dieux. Et donc, pour les punir, Dieu fit sortir des sables, des petits serpents qui piquaient les Juifs et ils mouraient tous comme des mouches. Alors, ils se portèrent en nombre devant Moïse pour demander pardon à Moïse, pardon au bon Dieu, demandant à Moïse de prier pour eux. Et Dieu dit à Moïse, mets au centre du camp un poteau et accroche à ce poteau un serpent d'airain. Tous ceux qui regarderont ce serpent avec foi seront délivrés. Du venin du serpent, ils ne mourront pas. C'est évident que ce serpent accroché à la croix représente, si vous voulez, c'est un symbole, si vous voulez, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par son sang, va vaincre le venin du premier serpent qui a trompé Adam et Ève dans le paradis terrestre. Autre exemple, la grappe de raisin portée sur un bâton, par ceux qui étaient allés visiter la terre promise et qui en ramenèrent une grappe extraordinaire. Ces grains de raisin qui vont être broyés et donner déjà le jus de la vigne, le vin qui va devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une allusion au sacrement de la Sainte Eucharistie. Encore un beau symbole qui est beaucoup moins connu, on le trouve au livre, le quatrième livre des Rois, au chapitre 6. C'est Élisée, le prophète Élisée, cherchant le fer de sa cognée tombée dans l'eau, qui nagea sur l'eau vers le bois, qui est une figure du genre humain, disent les pères que le fruit défendu d'un arbre précipita dans l'abîme, et que le bois de la croix de Jésus-Christ et le baptême de l'eau fit remonter et nager vers le paradis. Bon, je vous lis le passage. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voilà que ce lieu dans lequel nous habitons avec vous est étroit pour nous. Laissez-nous aller jusqu'au Jourdain, afin que chacun prenne son bois de la forêt, et que nous bâtissions là un lieu pour y habiter. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Venez donc vous aussi avec vos serviteurs. » Et il répondit, « J'irai. » Il s'en alla avec eux lorsqu'ils furent venus au Jourdain, ils coupèrent leur bois. Mais il arriva, comme l'un d'eux abattait son bois, le fer de la cognée, le fer de la hache, tomba dans l'eau, et celui-ci s'écria et dit « Hélas, 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 mon Seigneur, c'était le même que j'avais emprunté. » Alors l'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Élisée coupa donc un morceau de bois et le jeta là, et le fer nagea. Et il dit « Prends-le. » Celui-ci étendit la main et le prit. Eh bien, ce fer miraculeux qui se remet sur le manche de la hache représente notre Seigneur Jésus-Christ qui vient se fixer sur la croix. Donc de même que le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a précipité par Adam et Ève le genre humain dans l'abîme, le bois de la croix fait remonter, nager vers le paradis, le fer de la hache. C'est
c'est-à-dire le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le fer accroché au bois, à la poignée de la hanche, de la cognée, où il représente notre Seigneur Jésus-Christ, le fer imputrescible qui est accroché au bois de la croix. Enfin, autre symbole plus connu, celui-là, Jonas, jeté par le sort hors du vaisseau dans la mer et qui resta 3 jours dans le sein de la baleine. Donc ce poisson qui va avaler Jonas et qui va rester pendant 3 jours dans le ventre du poisson miraculeusement, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui va passer 3 jours dans le sein de la terre, entre le vendredi saint au soir, jour de son enterrement, et sa résurrection glorieuse entre les morts le dimanche de Pâques. Donc je continue les textes des pères que j'ai choisis. Encore une fois, je n'ai pas tout choisi, on n'a pas le temps de tout choisir, il y a beaucoup trop de choses. On choisit ce qu'on peut. Encore une fois, je ne peux que conseiller à ceux qui ont le temps de bien étudier ce polycopier, hein, et puis même d'aller directement, par exemple, étudier le livre de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin avec tous les textes des pères. Je n'ai pris que certains de ces textes. Vous pouvez avoir ces livres, obtenir ces livres en PDF plus ou moins gratuitement sur certains sites internet facilement, comme un site canadien qui s'appelle Liberius.net. Vous pouvez aussi avoir ces livres, le livre de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin dans la maison d'édition l'édition Saint-Rémy. Donc les uns doivent leur renommée au mérite de leurs parents, les autres aux vertus de leurs enfants. Et bon, voici, ici, les pères parlent de Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là et qui est obligé de porter la croix de Jésus. Il est évident qu'au début, c'est au verset 21 du chapitre 15 de Saint-Marc, au début il a dû porter la croix contraint et forcé. Et puis au bout d'un moment, il avait compris qu'il portait la croix d'un être extraordinaire. Et pour le remercier de son geste de charité, même si c'était une charité obligée, obligatoire, parce qu'on ne lui a pas demandé son avis pour le réquisitionner, pour porter la croix, eh bien, il s'est converti complètement, il est devenu le père de deux martyrs, deux prêtres, saint Alexandre et saint Rufus. Donc ses enfants devinrent les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apprenons de là, disent les pères, que la sagesse, que les vertus des enfants peuvent être dans cette vie un puissant auxiliaire pour les parents eux-mêmes. C'est ainsi que les mérites des patriarches, des prophètes et des apôtres ne cessent d'être un titre de gloire pour le peuple juif. Donc Simon qui porte forcément la croix de Jésus, qui porte de façon obligatoire la croix de Jésus, la figure de celui qui travaille pour la gloire humaine. Les hommes le contraignent de faire ce que ni la crainte ni l'amour de Dieu n'auraient pu obtenir de lui. Souvent, on suit notre Seigneur Jésus-Christ au début par obligation, contraint et forcé par les circonstances. Mais le bon Dieu demande plus que le fait qu'on le suive par obligation, il veut qu'on le suive par amour. Donc Saint-Bède, le Vénérable, explique que ce Simon n'était pas de Jérusalem, mais de Cyrène, une ville de Libye, qui figure donc le peuple des gentils, des non-juifs, qui autrefois étaient complètement étrangers aux alliances et qui maintenant, par leur obéissance, sont devenus les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc Simon représente le peuple des convertis, celui qui sort de sa maison des champs pour porter la croix après Jésus, qui est le peuple des nations et des gentils, qui abandonne la superstition du paganisme pour s'attacher fidèlement à suivre les traces de la passion du Sauveur. Et ils le conduisirent ainsi jusqu'au lieu appelé Golgotha. Donc ça représente tous ceux qui sont... Si vous voulez, au début, Dieu avait demandé aux seuls juifs de le suivre. Et puis, il va demander ensuite au peuple des gentils, et il va envoyer les apôtres au peuple des gentils, alors qu'au début, notre Seigneur Jésus-Christ ne va prêcher qu'aux brebis d'Israël. Puis, avec saint Paul, il va envoyer saint Paul, après sa mort, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, saint Paul va être envoyé, après sa conversion, en Grèce, puis après dans toute l'Europe, en fait, puisqu'il est allé jusqu'en Espagne pour prêcher l'Évangile, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Donc, le fait que le fait que Simon, je vois tout mon texte ici, j'ai perdu mon texte là, oui c'est ça, le fait que Simon, père d'Alexandre et de Rufus, fut obligé de porter la croix de Jésus, donc représente, si vous voulez, toute l'œuvre missionnaire des apôtres qui vont aller chercher les gentils pour que les gentils puissent eux aussi participer à tout le travail de conversion. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait expressément dit, il avait dit aux apôtres, allez, baptisez, prêchez. Prêchez, baptisez, celui qui sera baptisé sera, aura la foi, sera celui qui trouvera la foi, qui sera baptisé, ben sera sauvé, celui qui ne sera pas baptisé, qui refusera la foi, sera condamné. Donc c'est aussi la vigne amère qui produit le vin amer dont le Seigneur est abreuvé pour accomplir cette prophétie. On trouve dans les psaumes de David, ils ont mêlé le fiel à ma nourriture, ils m'ont présenté du vinaigre pour étancher ma soif, on va voir dans d'autres évangiles également, ils vont présenter du vinaigre à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix va dire, va s'exclamer, j'ai soif. On va lui mettre, un des soldats va mettre au bout de sa lance une éponge imbibée de vinaigre pour le présenter à la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse boire. Et notre Seigneur Jésus-Christ va refuser parce qu'il veut souffrir jusqu'au bout. Et donc ce vigne amer représente également ce qui aurait dû être un vin bon, doux et doucereux et qui devient une vigne amère parce que justement ce vin n'a pas voulu se bonifier avec le temps. Et c'est un exemple, c'est une image du peuple juif qui se refuse de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc suivant une tradition des Juifs, dit Saint Jérôme, c'est sur cette montagne du Calvaire, le Golgotha, qu'Abraham immola un bélier à la place de son fils Isaac. Et c'est là aussi que Jésus, comme dépouillé de sa chair, c'est-à-dire séparé de la Judée toute charnelle, en fait c'est une tradition qui est pratiquement reconnue par tous les pères de l'Église. Pratiquement tous les pères de l'Église reconnaissent que ce mont Moria sur lequel Dieu a voulu qu'Abraham alla immoler son fils Isaac est en fait le mont du Calvaire. C'est le même, la même montagne. Donc ce vin mêlé avec de la myrrhe et du vinaigre. Donc c'est au verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu adoucir les souffrances de sa croix. Il a voulu les porter jusqu'au bout. Et donc il refuse toute aide, si vous voulez, qui pourrait diminuer ses souffrances. Certains pères pensent que ce vinaigre mélangé avec de la myrrhe, ce vin mélangé avec de la myrhe, était donné aux condamnés à mort pour, en quelque sorte, les calmer un peu avant d'être crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ n'en a pas voulu. Donc c'est en goûtant ce vin que le Seigneur détruit le suc du fruit qui a donné la mort. Alors ici, il y a d'autres symboles expliqués par les pères. L'arbre de la croix est pour nous la figure du salut. Le premier arbre est celui de la science du bien et du mal. Le second est exclusivement l'arbre du bien et de la vie. Donc les pères de l'Église appelaient souvent la croix l'arbre de vie, en comparaison avec l'arbre de mort. Et l'arbre de mort, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a effectivement apporté la mort par la désobéissance d'Adam et Ève. L'arbre de vie, au contraire, c'est l'arbre de la croix qui va détruire par le sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ sur cet arbre de vie, sur cette croix, qui va détruire les conséquences du péché originel. Donc le péché originel, par son arbre de mort, va fermer les portes du paradis. L'arbre de vie, au contraire, la croix du Golgotha est comme la petite clé qui va ouvrir les portes du paradis. Donc l'arbre de l'arbre de mort, le premier arbre, l'arbre du péché originel, va apporter l'orgueil, va apporter la haine, va apporter la laideur. Alors qu'au contraire, l'arbre de vie, la croix, va apporter l'humilité, va apporter la beauté, va apporter la charité. Dès que le démon rentre dans une âme, on voit la présence, on peut repérer la présence du démon dans une âme, justement par ces signes toujours les mêmes. Systématiquement, c'est l'orgueil, systématiquement, c'est la haine qui rentre dans les cœurs, avec la laideur qui va avec cette haine. Alors qu'au contraire, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reprend le pouvoir sur une âme, eh bien on va trouver la charité, on va trouver l'humilité, on va trouver la beauté. Autre symbole, la main en s'étendant vers le premier arbre n'a saisi que la mort. C'est la main d'Ève qui se tend vers le fruit défendu qu'elle trouve beau, qu'elle trouve délectable, qu'elle trouve attirant et qui va désobéir à la loi de Dieu et prendre ce fruit défendu. Et en prenant ce fruit défendu, elle va amener la mort au monde en donnant cette mort à son mari qui, en tant que chef de l'humanité, va entraîner cette mort sur tous ceux qui vont descendre avec lui, après lui, par voie de génération. Donc la main en s'étendant vers le premier arbre, l'arbre du paradis terrestre, n'a saisi que la mort. Les mains tendues sur le second ont retrouvé la vie qui était perdue. Donc le deuxième arbre détruit les conséquences du premier arbre. Autant le fruit du premier arbre, qui est le fruit du péché original, va amener la mort, la désolation dans le monde entier. Le fruit du deuxième arbre, le fruit de la croix, va amener la résurrection et donc le salut du monde entier. Donc c'est par la croix que Jésus-Christ nous a délivrés des supplices qui nous étaient dus et c'est par sa mort qu'il a détruit notre mort. Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous, nous fait ressusciter d'entre les morts. Nous étions tués par le péché, par sa mort sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa propre résurrection, va nous incorporer à sa résurrection. C'est sous la forme d'un serpent qui donne la mort à l'antique serpent, de même que c'est par la verge changée en serpent que les autres serpents ont été dévorés. Là, c'est Moïse devant le Pharaon. Donc, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué cet exemple de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, donc du serpent d'airain qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa force, allait détruire les conséquences du poison qu'avait donné le premier serpent à Adam et Ève. En désobéissant à la loi de Dieu, Adam et Ève ont écouté les paroles du serpent, et le serpent, en quelque sorte, est un serpent empoisonné qui a mordu Adam et Ève et qui a transmis son venin dans le sang d'Adam et Ève, qui après l'ont transmis à toute leur génération, donc tous les enfants d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, eh bien toute cette génération est contaminée par le poison de ce premier serpent, à savoir le poison de la désobéissance. Le poison, les trois concupiscences, l'orgueil, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, tous, tout le monde, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, dans son humanité, et la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est Immaculée Conception. Donc les pères se posent la question que nous représente aussi la forme de la croix, si ce n'est les quatre parties du monde. L'Orient brille à son sommet, le septentrion figuré par la droite, le midi par la gauche, l'Occident par la base fixée dans le sol, ce que paraît indiquer la peau dans ses paroles, afin que vous sachiez quelle est la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que la croix représente l'universalité des conséquences de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Donc c'est les quatre points cardinaux, c'est pour expliquer que au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers, de l'Orient à l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre extrémités dans la croix. Il y a l'extrémité qui pointe vers le ciel, pour expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ est roi au ciel. L'extrémité des deux côtés, à droite et à gauche, qui marque le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'ensemble de ses créatures, l'ensemble du monde. Et la croix qui est fichée dans le sol, qui montre que même dans les enfers, Dieu tient en chaîne le démon. Et c'est pour cela que le pouvoir de la croix descend jusque dans les enfers, bien que dans les enfers, malheureusement, la miséricorde de Dieu ne puisse plus s'exercer, puisque les démons, les damnés en enfer, sont sortis de la sphère de miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup de pères de l'Église font également représenter que l'homme lui-même est façonné, physiquement parlant, sous la forme d'une croix. Quand vous étendez vos deux bras horizontalement, à droite et à gauche de votre corps, quand vous êtes debout, eh bien, vous représentez la croix, la tête, qui est la partie supérieure de la croix, les deux bras de la croix qui sont représentés par vos deux bras, et le corps et les jambes qui représentent la partie verticale de la croix. Le stipes, et donc les bras représentent le patibulum, et la tête représente l'écriteau, avec l'inscription de la mort de notre, la raison de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui s'est dit roi des Juifs. Et puis les pieds représentent le contact avec l'enfer, malheureusement. Lorsque les oiseaux prennent leur vol dans les airs, ils dessinent la forme d'une croix. Donc les pères, prenez des tas de comparaisons dans la vie de tous les jours pour expliquer justement l'influence de la croix, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. L'homme en nageant imite la forme d'une croix pour se soutenir dans les eaux. Le vaisseau reçoit le souffle du vent dans l'antenne qui soutient les voiles, qui présente la figure d'une croix. La lettre T, par sa forme, est aussi l'emblème de la croix et du salut. Passons à la page 32. Donc ici, il y a d'autres textes. Entre autres, c'est des textes aussi qu'on retrouve dans saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez reprendre les cours de catéchisme qui sont sur mon site internet. Dame Marie, vous avez toute la partie sur la passion, enfin plus exactement dans la... C'est plus sur la partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est dans la tertia part, si mes souvenirs sont exacts. Il y a toute une partie sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ où je cite saint Thomas d'Aquin abondamment, justement pour expliquer toutes ces symboles que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, va longtemps, longuement commenter. Voilà ici certains textes des Pères et de saint Thomas d'Aquin, page 32. On peut dire aussi que le bois transversal de la croix, où les mains sont clouées, signifie la joie que produit l'espérance, car les mains sont le symbole des œuvres, et cette largeur de la croix figure la joie qui accompagne les bonnes œuvres, car la tristesse resserre le cœur. Donc ces deux mains étendues, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc ces deux mains étendues représentent justement la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ qui ouvre ses bras crucifiés pour attirer tout le monde à lui. Donc le haut de la croix, où la tête repose avec le titulum, représente l'attente de la récompense que nous réserve la justice sublime de Dieu. Pourquoi? Parce que le haut de la croix se dirige vers le ciel. La longueur de la croix sur laquelle le reste du corps est étendu figure la patience. Et de là vient qu'on dit du cœur de ceux qui sont patients qu'ils ont de la longanimité, la grandeur, la longueur d'âme, longanimité, longa anima. La partie de la croix qui s'enfonce dans la terre, le symbole des profondeurs que renferme ce mystère. Tant que dure pour nos corps le devoir de détruire en nous le corps du péché, c'est pour nous le temps de la croix. Pourquoi le signe de la croix est tellement important, comme il est important, il est nécessaire de voir dans toutes les familles catholiques ce signe de la croix. C'est le signe du catholique. Le signe du catholique, c'est la croix. Je vous ai déjà expliqué en d'autres conférences qu'il y a vraiment trois symboles qu'il faut voir dans toutes les familles catholiques: la croix, la Très Sainte Vierge Marie et le pape. Donc, le signe de la croix, j'avoue que j'aime bien voir dans les familles catholiques une croix avec un bout de rameau du dimanche des rameaux, non seulement dans le salon, mais également dans chaque pièce, au moins dans chaque chambre. Vous voyez, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa croix, manifeste que cette maison lui appartient. Et aussi, il faut avoir l'image de la Sainte Vierge. La croix, l'image de la Sainte Vierge et l'image de la papauté, le symbole de la papauté, même si nous sommes hélas orphelins d'autorité, état actuel de l'Église, depuis la mort du pape Pie XII en 1958, il faut garder en nous l'amour de la papauté. Donc ayez une place d'honneur de votre maison, ayez une statue ou un buste ou une belle image d'un des grands papes de l'histoire de l'Église catholique. par exemple Saint Pie V, soit Saint Pie V, soit par exemple Pie IX, soit Saint Pie X, à côté de mon oratoire ici, là où je suis, à Padiès, dans le Tarn, j'ai un très beau buste qui m'a été donné, un cadeau du pape Pie IX, un grand, grand pape du 19e siècle, qui est le pape de l'Immaculée Conception, qui est le pape de l'infaillibilité pontificale. Alors, d'autres symboles expliqués par les pères de l'Église, page 32, Saint Jérôme, qui dit que ses vêtements, les vêtements du Sauveur, que les soldats païens se partagent, sont ses commandements, dont son corps, c'est-à-dire l'Église, est comme enveloppé. Et ils sont partagés entre quatre classes de fidèles unis par une même foi, la foi catholique. Les époux, ceux qui pratiquent la continence, les supérieurs et les simples fidèles. Donc on voit les quatre classes de fidèles, les époux d'une part, ceux qui pratiquent la continence, c'est-à-dire les consacrés, les supérieurs et les simples fidèles. La tunique indivisible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la paix et l'unité, leur est échue à tous par le sort. C'est-à-dire cette tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, tunique sans couture, tissée par la très sainte Vierge Marie, est le symbole de l'unité de l'Église. L'Église catholique est une sainte catholique et apostolique. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué avec les pères que la robe de pourpre qui est placée sur les épaules de notre Seigneur Jésus-Christ après la flagellation pour l'Ecce Homo, la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple, devant les Juifs, au balcon de la maison de Ponce Pilate, à forteresse Antonia, à Jérusalem, est le symbole de cette nouvelle Église. Notre Seigneur Jésus-Christ enlève ses vieux vêtements de l'Ancien Testament, donc du pouvoir des Juifs, pour donner le pouvoir à une nouvelle espèce, si vous voulez, d'apôtres qui représentent le peuple catholique. Alors, continuons les explications des pères. Donc, notre Seigneur a voulu nous apprendre en termes couverts que les véritables auteurs du crucifiement furent ceux qui demandèrent à grands cris que le Seigneur fût crucifié, plutôt que ceux qui, par le devoir de leur état, ne firent qu'obéir aux ordres de leur chef. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va dire à Pilate, « Celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Les Juifs ont évidemment une responsabilité énorme, mais n'oubliez pas ce que je vous ai déjà souvent expliqué, c'est qu'un catholique qui trahit notre Seigneur Jésus-Christ par un péché mortel est en soi, strictement parlant, plus coupable que les Juifs qui envoient notre Seigneur Jésus-Christ se faire crucifier. Notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, souffrir davantage d'avoir un de ses amis qui le trahit que d'être trahi par ses ennemis. Je dirais, être trahi par ses ennemis, c'est une chose normale. Par contre, être trahi par ses amis, c'est quelque chose d'abominable. Et être trahi par ceux qui ont été spécialement choisis par notre Seigneur, c'est encore plus grave. C'est pour ça que la fuite des apôtres, les apôtres qui vont tous s'enfuir au jardin des Oliviers, a dû percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de façon extraordinaire. Et certainement qu'il a beaucoup, beaucoup souffert aussi de la trahison de Judas et la trahison de tous les apôtres. La vérité est confondue avec les scélérats. Elle en laisse un à gauche, elle prend et sauve celui qui est à sa droite. C'est ce qu'elle doit faire encore au jour du jugement. Donc deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, il a été rangé parmi les criminels. Ce verset 27 et 28 du chapitre 15. Donc, dans Saint Marc, il n'est pas parlé de la conversion du brigand de droite Saint Dismas. Donc, je vous ai déjà dit que sa fête... Il est canonisé par l'Église, il est canonisé par notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et il est fêté au 25 mars, jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est ce jour-là qu'il est monté au ciel, puisqu'il est mort au 25 mars en même temps que notre Seigneur, quelques minutes après notre Seigneur Jésus-Christ. Quel sort bien différent après des crimes semblables. L'un précède Pierre dans le paradis, l'autre Judas dans l'enfer. Une confession rapide obtient à l'un une vie éternelle, et le blasphème qui expire sur les lèvres de l'autre, est puni d'un supplice sans fin. Rappelez-vous, mes bien chers frères, ce qu'expliquent les pères, que si Gestas, le mauvais larron, avait prononcé les mêmes paroles que son confrère, Saint Dismas, qu'il avait dit « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume », eh bien, il serait au paradis avec son confrère, il y aurait un Saint Gestas. Et c'est pareil pour Judas. Si Judas avait pleuré son péché comme Saint-Pierre a pleuré le sien, s'il était sorti lui aussi pour pleurer amèrement d'avoir trahi trois fois notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pardonné le péché de Judas comme il a pardonné le péché de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a cru à la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur repentant, et Saint-Pierre est au ciel. Il a été choisi pour être le premier pape. Malheureusement, Judas n'a pas cru à la miséricorde infinie du bon Dieu pour le pécheur repentant, a voulu limiter, j'ai déjà expliqué, a voulu limiter les pouvoirs de la miséricorde de Dieu, a limité la miséricorde de Dieu, et en faisant cela, a limité la divinité, donc a détruit la divinité, et résultat, il est en enfer. On ne sait pas qui est en enfer. On sait simplement qu'il y a malheureusement plus de gens en enfer qu'au ciel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large et facile qui mène à la damnation, et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Ça, c'est deux fois ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Mais l'Église se garde bien de donner des noms. On ne sait pas qui est en enfer, sauf deux noms qui, par tradition, deux personnes qui ont toujours été reconnus comme les pères, comme étant damnés. Le premier, c'est évidemment Saint Gestas, à cause de la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, il mieux fallut pour cet homme qui ne fut point né. Traditionnellement aussi, Caïn, à cause du meurtre de son frère Abel. Et il semblerait qu'il n'ait pas regretté son péché. On peut en rajouter certainement un troisième, hélas, qui a présenté tous les signes de la damnation, à savoir Gestas, le mauvais larron. Encore une fois, le mauvais larron aurait pu devenir un saint s'il avait accepté la miséricorde du bon Dieu. Il n'y a rien de pire que de refuser la miséricorde de Dieu. C'est encore plus grave de refuser la miséricorde de Dieu que de refuser la justice de Dieu. Vous voyez ? Une fois que la miséricorde est éliminée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand on est dépassé par la justice, il faut se précipiter dans la miséricorde. La justice étant mise de côté, il reste au moins la miséricorde. Mais quand la miséricorde saute, il n'y a plus rien. Si la justice et la miséricorde saute, il ne reste plus que la justice. Tandis que la justice de Dieu est tempérée par la miséricorde. Mais quand on ne croit plus à la miséricorde du bon Dieu, il ne reste que la justice. Et à ce moment-là, c'est la condamnation du pécheur qui refuse de se convertir. Donc, Dismas, le bon larron, s'est converti. Donc, Saint Bède le Vénérable, autre phrase des pères, les deux voleurs crucifiés avec notre Seigneur sont la figure de ceux qui, pour professer la foi le nom de Jésus-Christ, se dévouent aux épreuves du martyr en embrassant, et en embrassant la pratique sévère d'une vie mortifiée. Ceux qui ne se proposent en cela que la gloire éternelle sont figurés par la foi du voleur qui est à droite. Ceux au contraire qui n'ont en vue que la gloire qui vient des hommes imitent les sentiments et les actes du voleur qui est à gauche, donc qui refuse la miséricorde. Autre image des pères, ces deux voleurs, Dismas et Gestas, représentent les deux peuples, les juifs et les gentils, tous deux coupables d'iniquité pour avoir transgressé les juifs, les gentils, la loi naturelle, et les juifs, la loi écrite que le Seigneur leur avait donnée. Mais le peuple des gentils se repent, tandis que le peuple juif blasphème jusqu'à la fin. Et c'est au milieu de ces deux peuples que le Seigneur est crucifié, car il est la pierre angulaire qui nous réunit. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, même du haut de la croix, cherche à sauver encore le peuple juif. Et Dieu merci, un certain nombre de gens du peuple juif vont se convertir. N'oubliez pas que la Sainte Vierge Marie est de race juive, que tous les apôtres sont également de race juive, et donc vont se convertir. Les premiers chrétiens sont pratiquement tous des juifs convertis. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire qui va réunir qui va supporter en quelque sorte le poids de tout l'édifice. Cet édifice, c'est l'Église. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié entre les deux larrons pour bien montrer qu'il cherche à ramener vers lui l'ensemble de l'humanité. et l'Église catholique représentée par le bon larron, Saint Dismas, mais aussi l'Église juive représentée par le mauvais larron, Saint Gestas, et pour expliquer que, la majorité des peuples juifs a refusé notre Seigneur Jésus-Christ, a lutté contre lui, on le voit dans l'histoire de l'Église, eh bien Gestas, hélas, ne va pas profiter de la miséricorde du bon Dieu, alors que Dismas y croit à cette miséricorde et sera sauvé. Donc tous ceux qui regardent avec foi notre Seigneur Jésus-Christ, comme les Juifs qui étaient piqués par le serpent dans le désert, qui regardaient le serpent d'airain, étaient sauvés. De la même façon, tous ceux qui regardent notre Seigneur Jésus-Christ avec amour, qui disent la même parole que le bon larron, « Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume », eh bien, ceux-là sont sauvés. Avançons avec les versets 29 à 32 du chapitre 15 de saint Marc. Les passants le blasphémaient, branlant la tête et disant « Hé, vous qui détruisez le temple de Dieu et qui le rebâtissez en trois jours, sauvez-vous vous-même en descendant de la croix ?» Pareillement, les princes des prêtres, se moquant de lui et que les scribes se disaient l'un à l'autre, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc, tous ces gens qui, au lieu de se faire un mea culpa, de frapper la poitrine pour demander pardon de leurs péchés, comme vont faire un certain nombre de gens au pied de la croix, heureusement, eh bien, hélas, la plupart des membres du Sanhédrin, les prêtres juifs, ont refusé ce salut qui vient de la croix. N'est-il pas mille fois, disent les pères, plus admirable qu'un mort puisse ressusciter, qu'il ne le serait qu'un homme vivant encore voulu descendre de la croix? Vous avez peu demandé, on vous a donné beaucoup, mais ces prodiges mille fois plus éclatants que ceux que vous demandez n'ont pu guérir votre incrédulité. Ils se sont détournés de la vérité, sont devenus inutiles. Hélas, l'immense majorité du peuple juif a refusé cette conversion. On va voir dans l'histoire de l'Église comment les Juifs ont, hélas, multiplié les exactions contre l'Église naissante pour empêcher le salut d'arriver au monde. Passons à la page 33. Versets 33-37 du chapitre 15 de saint Marc. La sixième heure étant venue, les ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Sixième heure, c'est midi. Neuvième heure, c'est trois heures plus tard, c'est donc trois heures de l'après-midi, 15 heures. À la neuvième heure, Jésus poussa un grand cri en disant « Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani » en araméen. Ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut et remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présentait à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le détacher ». Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc on voit ici dans le texte de saint Marc que les sept paroles de Jésus en croix ne sont pas toutes exprimées. Il faut compléter l'évangile de saint Marc par les autres évangiles. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé cette parole magnifique. « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est la première phrase, en fait, du psaume 21. Dans la Vulgate, dans les textes des Hébreux, c'est psaume 22. Mais le psaume 21 est le psaume que nous disons à l'office du bréviaire le vendredi, à l'office de prime. C'est le même psaume, donc ce psaume que notre Seigneur Jésus-Christ, selon la tradition, a prononcé sur la croix. Pas simplement le premier verset, mais il a prononcé tous les versets du psaume 21, qui était un psaume assez long, que tous les Hébreux, que tous les Juifs connaissaient par cœur. Ils apprenaient tous les psaumes de David à l'école, ils les connaissaient par cœur, et tous, au moins tous les adultes, savaient que ce psaume 21 était un psaume qui avait été écrit à peu près 1000 ans avant notre Seigneur par le roi David et qui annonçait la passion du Messie. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé non seulement la première phrase de ce psaume, mais l'intégralité du psaume 21 pour bien leur expliquer « Je suis celui qui a été annoncé il y a 1000 ans déjà par le roi David. Je suis le Messie. » Vous savez que c'est le même psaume que le prêtre va réciter pendant le dépouillement des autels, le jeudi saint au soir. Voilà ce psaume, je vous en donne certaines parties ici, on voit très bien à quel point cela représente justement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça commence par ces paroles, mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné, m'avez-vous délaissé? Les paroles de mes péchés sont loin de mon salut. Je crierai pendant le jour et vous ne m'exaucerez pas, et pendant la nuit ce n'est point à moi une folie. Vous habitez dans un sanctuaire, vous, la louange d'Israël. C'est en vous qu'ont espéré nos pères. Ils ont espéré et vous les avez délivrés. Vers vous, ils ont crié, ils ont été sauvés. En vous, ils ont espéré, ils n'ont point été confondus. Et là, on voit les allusions directes à la passion. Je suis un ver pour vous et non pas un homme. Je suis devenu l'opprobre des hommes, l'abjection du peuple. Tous ceux qui m'ont vu m'ont tourné en dérision. Ils ont parlé du bout des lèvres, ils ont secoué la tête. Et on le voit. C'est exactement ce qui se passe au verset 36. Alors qu'on lui présentait à boire, les membres du Sanhédrin disent « Laissez, voyons si Élie viendra le détacher. » Et auparavant, au verset 31 et 32, ils se moquaient d'eux aussi, ils tournaient en dérision en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyons que nous croyons. Et donc tous ceux qui étaient crucifiés, je veux dire, Gestas, le mauvais larron, aussi insulté notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est représenté dans le psaume. Ceux qui m'ont vu m'ont tourné en dérision, ils ont secoué la tête, ils ont parlé du bout des lèvres. Il a espéré dans le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il l'aime. Pratiquement, ce sont les mêmes mots que vont prononcer les membres du Sanhédrin. Cependant, c'est vous qui m'avez tiré du sein de ma mère. Vous êtes mon espérance depuis que je suçais les mamelles de ma mère. C'est sur vous que j'ai été posé en sortant de son sein. Depuis que j'étais dans les entrailles de ma mère, vous êtes mon Dieu. Ne vous éloignez pas de moi, parce que la tribulation est proche, parce qu'il n'y a personne qui ne me porte, qui me porte secours. Et d'autres allusions ici à la passion. Des jeunes taureaux en grand nombre m'ont environné, des taureaux gras m'ont assiégé. Ils ont ouvert sur moi leur gueule comme un lion ravissant et rugissant. Je me suis épanché comme de l'eau et tous mes os se sont déboîtés. Mon cœur est devenu au-dedans de moi comme une cire qui se fond. Ma force est desséchée comme un tesson de bouteille. Et ma langue s'est attachée à mon palais, vous m'avez conduit à la poussière de la mort. Parce que des chiens nombreux m'ont environné, un conseil de méchants m'a assiégé. Ils ont percé mes mains et mes pieds. La plus fameuse phrase du verset de ce psaume 21, après la phrase du premier verset, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» L'autre phrase très connue, c'est celle-ci, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Et tous ceux qui étaient là pouvaient voir le Messie devant eux, crucifié, avec ses mains, ses pieds percés, on pouvait compter tous ses os. Ils m'ont même considéré, regardé attentivement, autre annonce de la passion. Ils se sont partagés mes vêtements et sur ma tunique, ils ont jeté le sort. Et les gens qui étaient là, qui se connaissaient tous par cœur ce psaume 21, pouvaient voir les soldats dans un coin, sur le côté de la croix, à l'abri du vent quelque part, étaient en train de jouer au dé, la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, pour savoir qui allait l'emporter. Et donc, c'était annoncé dans les psaumes par le roi David 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas votre secours de moi, voyez à ma défense, arrachez mon âme à l'épée à double tranchant et mon onyx de la main du chien, sauvez-moi de la gueule du lion et ma faiblesse des cornes des licornes. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, ce serait un peu trop long, mais n'hésitez pas. Ceux qui veulent un petit peu plus méditer sur ces sujets-là, de reprendre le psaume 21 que vous avez sur la Sainte Bible. La meilleure Bible en français, c'est, je pense, la Bible de Glaire. La Sainte Bible, selon la Vulgate, c'est avec les Bibles en français, dans toutes les langues d'ailleurs, doivent être traduites sur la Bible officielle, qui est la Bible de Saint-Jérôme, traduction de Saint-Jérôme, faite à partir de tous les textes les plus anciens qu'on possédait à l'époque, qui ont pratiquement tous disparu dans l'incendie par les Ottomans, par les Arabes, de la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc Saint Jérôme avait fait au 3e, 4e siècle une traduction de la Bible pour le pape Saint Damase. Et tous les textes des Bibles de toutes les langues du monde entier doivent être traduits à partir du texte de la Vulgate. Donc en français, la meilleure traduction, c'est la Bible de Glaire qui vient d'être rééditée aux éditions DFT, Diffusion de la fin des temps. En voyant les commentaires des pères de l'Église sur ces versets 33 à 37 du chapitre 15 de saint Marc, saint Bède le Vénérable, l'astre brillant du jour, voilà ses rayons pour ne pas voir le Seigneur attaché à la croix, pour ne pas laisser jouir de la lumière ses impies blasphémateurs. En effet, à la sixième heure du jour, les ténèbres se répandirent sur toute la terre jusqu'à la neuvième. Donc, pas simplement sur Jérusalem, mais en fait sur tout le monde habité de l'époque, les ténèbres, une espèce d'éclipse extraordinaire, miraculeuse, a eu lieu à ce moment-là, et qui a été vue jusqu'en Grèce, puisque Saint-Denis l'Aréopagite a vu en Grèce, à Athènes, il a vu ces ténèbres qui se sont répandues sur toute la terre, depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, heure de Jérusalem, et il a compris que la machine du monde, où se détraquait, où le créateur du monde était en train de souffrir. Et ça a été le début de sa conversion. Et ensuite, il est devenu un disciple de saint Paul, puis il a été envoyé par saint Paul prêcher l'évangile en France, puisque c'est lui qui a amené la foi à Paris. La basilique Saint-Denis, justement, vient de là. Lorsqu'Adam eut péché, il est écrit qu'il entendit la voix de Dieu qui se promenait dans le paradis à l'heure du jour où la brise s'élève. Or, ce fut à l'heure que le premier Adam fit entrer par son péché la mort dans le monde et que le second Adam détruisit par sa mort l'empire de la mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ vient rattraper par sa mort les conséquences du premier péché. Et donc les pères disent que notre Seigneur Jésus-Christ est né et mort à l'heure à laquelle le premier Adam, le premier homme, a commis son péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ meurt à 3 heures de l'après-midi, qui est d'après la tradition l'heure du péché d'Adam et Ève. Il est encore à remarquer que le Seigneur a été crucifié lorsque le soleil s'éloigne du centre du ciel et qu'il a célébré le mystère de sa résurrection lorsque le soleil se lève. Parce qu'il est... Il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc la descente du soleil sur l'horizon, fin de journée, représente la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'au contraire, le lever du soleil le matin représente la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de Pâques, tôt le matin. Il a voulu par là nous apprendre que les âmes des saints s'élèvent dans les mains de Dieu, elles qui étaient retenues dans les enfers avant l'avènement de celui qui est venu annoncer aux captifs leur délivrance. Donc voyons les derniers versets de ce chapitre 15 de saint Marc, versets 38 à 41. « Alors le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, et le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré en poussant ce grand cri, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait là aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, le mineur, et Joseph et Salomé, qui le suivaient. Et le servait depuis lorsqu'il était en Galilée, beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc ce voile du temple qui se déchire, il y avait un grand voile qui séparait le sanctuaire, le Saint des Saints au temple de Jérusalem, qui va se déchirer en deux pour bien montrer que l'Église juive devient caduque, devient mortifère. Que maintenant, c'est la fin de l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, et donc tous les sacrifices des agneaux, des boucs, des veaux, des taureaux, la circoncision de l'Ancien Testament, toutes ces purifications légales, tout ça est terminé et remplacé par le grand sacrifice rédempteur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Dieu permit, disent les pères en bas de la page 33, que le voile se déchira afin de signifier que la grâce de l'Esprit Saint s'éloignait, se séparait du temple, pour découvrir aux yeux de tous les secrets du Saint des Saints, et aussi que le temple serait dans la désolation lorsque les Juifs déploreront leur malheur et déchireront leurs vêtements. C'est pour ça qu'un certain nombre vont se convertir, notamment ce centurion, qui n'était pourtant vraisemblablement pas un Juif, mais plutôt un Romain, qui va se convertir, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Un acte de foi magnifique. Ce voile qui se déchire est aussi le symbole de ce temple vivant, du corps de Jésus-Christ qui, dans sa passion, vit ses vêtements, c'est-à-dire son corps déchiré. Donc on déchire les membres de notre Seigneur Jésus-Christ et ce voile qui se déchire est à la fois le symbole de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi le symbole encore une fois, de cette nouvelle Église, l'Église catholique, qui vient prendre la place de l'Église juive. Autre signification donnée par les pères de l'Église, notre chair est le voile de notre temple, c'est-à-dire de notre âme. Or, la puissance de la chair dans la passion de Jésus-Christ a été déchirée et détruite du haut en bas, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'au dernier rejeton de sa postérité. Notre Seigneur Jésus-Christ va mourir pour tous les hommes. En effet, Adam est sauvé par la passion de Jésus-Christ. Sa chair ne demeure plus sous la malédiction, elle n'est plus sujette à la corruption, mais elle reçoit en même temps le don de l'incorruptibilité. Le nouvel Adam sauve tout ce qui a été détruit par le premier Adam. Et les saintes femmes, donc il y avait Sainte Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé et d'autres qui étaient là aussi. Les hommes brillent par leur absence au pied de la croix, il ne faut pas oublier ça, il n'y a que Saint-Jean qui est là. Hein. Saint-Jean est là parce que la très sainte Vierge Marie, littéralement, l'a pris par la main, elle voulait absolument qu'il y ait au moins un apôtre qui soit là. Mais les apôtres, ils sont tous partis. Hein. Saint-Pierre n'est pas là, Saint-Jacques et Saint-Philippe et tous les apôtres sont tous sauvés, ils ne sont pas là. Notre Seigneur Jésus-Christ va mourir seul, mais entouré des saintes femmes. On le voit bien aujourd'hui, moi quand je prêche ces exercices, je vois bien, il y a beaucoup plus facile d'amener la contrition dans un cœur féminin que dans un cœur masculin. Les cœurs masculins sont plus durs à la conversion que les cœurs de femmes. Beaucoup de femmes qui font les exercices Saint-Ignace en 5 jours, au bout d'une journée et demie, sont prêtes à se confesser, alors que les hommes, il faut 2 jours et demi, parfois plus. Pourquoi il y a une dureté du cœur de l'homme qui n'existe pas dans la femme? Pourquoi? Parce que l'homme est dirigé par sa tête, donc il y a un problème d'orgueil chez l'homme. Alors que la femme, au contraire, est dirigée, elle, par le cœur. Et étant dirigée par le cœur, eh bien, il est beaucoup plus facile pour elle de se convertir que pour l'homme, qui, à cause de son orgueil, rejette la conversion. Donc ces femmes assistaient le Seigneur de leur avoir. Elles étaient là pendant les 3 années de vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ pour s'occuper de la nourriture, s'occuper de réparer les vêtements des apôtres et de s'occuper de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ, mais des apôtres qui étaient avec lui. Il y avait une grosse compagnie, il y avait 12 personnes, plus parfois des disciples, plus les saintes femmes. Tout le monde était là. Les saintes femmes s'occupaient de les choses matérielles, la cuisine, certainement. Donc ces femmes assistaient le Seigneur de leur avoir et leur permettaient aussi de moissonner leurs biens matériels, alors qu'elles moissonnaient elles-mêmes ces grâces spirituelles. Donc ici une remarque de Saint Jérôme en haut de la page 34. Saint Jérôme dit de même que la femme est associée au salut du monde dans la personne de la Vierge Marie, ainsi Dieu la rattache à la science du mystère de la croix et de la résurrection. Dans Sainte Marie-Madeleine qui est veuve et dans les autres mères qui l'accompagnent. Donc la Sainte Vierge Marie représente justement l'ensemble des femmes. Je dis souvent aux femmes quand elles se convertissent, quand elles, aux exercices, il y a eu beaucoup de conversions de femmes, je dis, vous n'oubliez pas que vous avez au ciel, que la plus grande sainte au ciel, c'est une femme, la très sainte Vierge Marie. Voyons. Non, je ne vais pas avoir le temps de terminer. Est-ce que je vais avoir le temps? C'est un petit peu juste pour terminer les derniers. Je vais simplement vous lire les derniers versets, mais je terminerai le commentaire de ces versets au prochain cours. Ce sont les versets 42 à 47. C'est la fin du texte sur la passion, fin du chapitre 15 de Saint Marc. Le soir étant déjà venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre distingué du conseil qui attendait lui aussi le royaume des cieux, le royaume des dieux, vint et entra hardiment chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Ayant fait venir le centurion, lui demanda s'il était déjà mort. Et lorsqu'il s'en fut assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul, le déposa dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Cependant, Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Donc, ici, il y a une remarque des pères intéressante. Ils disent que c'est le sixième jour que Jésus a été créé, sixième jour de la création. C'est le septième que le Créateur s'est reposé de toutes ses œuvres. C'est aussi le sixième jour que le Sauveur attaché à la croix accomplit le mystère de la réparation du genre humain, c'est-à-dire le vendredi. Et le septième, il se repose dans le tombeau en attendant sa résurrection qui devait avoir lieu le huitième jour qui correspond au dimanche. Donc notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le sixième jour, se repose au tombeau, mystiquement parlant, le septième jour et ressuscite le jour du dimanche, le jour du Seigneur. Donc nous aussi, nous devons, pendant l'âge actuel de cette vie, nous devons être crucifiés au monde. Et le septième jour, lorsque chacun de nous aura payé son tribut à la mort, nos corps reposeront dans le tombeau, tandis que nos âmes, après une vie de bonnes œuvres, se reposeront dans la paix intime de Dieu, en attendant qu'au huitième âge, nos corps glorifiés avec nos âmes reçoivent par leur résurrection le don de l'incorruptibilité. Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, annonce évidemment notre propre mort au péché, mort au monde et la résurrection dans la grâce sanctifiante. Donc la grâce sanctifiante est une véritable résurrection. Je vois toujours ça aux exercices de Saint Ignace, lorsqu'on fait ces confessions générales extraordinaires, le troisième jour de la retraite, au milieu de la retraite. Certaines personnes font une confession générale de plusieurs années, parfois certains ne se sont pas confessés depuis plusieurs années aussi, retrouvent la grâce sanctifiante, c'est réellement une résurrection d'entre les morts qui correspond à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà 1 heure que je vous parle, et la prochaine fois, Dieu aidant, je terminerai le chapitre 15 de Saint Marc, et sans doute j'aurai le temps de faire le dernier chapitre, les 4 dernières pages du polycopier, chapitre 16, et terminer ainsi, j'espère, l'évangile selon Saint Marc. Bon, si j'ai pas le temps, tant pis, c'est pas grave, mais je pense terminer le prochain cours, l'évangile selon Saint Marc. Il restera évidemment après deux évangiles très importants, l'évangile selon Saint Luc et l'évangile selon Saint Jean. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.